Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Pendant 2-3 ans, je me suis posé la question, est-ce que je continue Petit Prince? Parce que prendre le métro, moi je prenais des tire-fesses ou des œufs, hein, la nature qui était à côté de moi. Donc ça a été de poursuivre l'aventure à cause de cette vie à Paris que je détestais. C'est même pas le manque d'argent, c'est pas ça qui m'a. C'était, mais je faisais un grand écart entre ma vie partagée, je te dis, en Grèce, au bord de l'eau, la montagne où je te dis, je ne faisais que rêver et je construis quelque chose à Paris. C'est ça qui a été le plus dur dans ma vie. Si vous vous plaisez pas quelque part, faut partir. Obligatoirement, ça vous abîme. C'est pas facile, hein, de quitter quelque chose. Oui, si on peut réaliser ses rêves, prendre des décisions, il faut le faire quand on peut.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Pour ce dernier épisode de l'année, nous finissons en beauté avec une femme exceptionnelle. J'ai découvert Dominique grâce à une amie qui a été engagée à ses côtés en tant que bénévole pendant 9 ans. Un immense merci Mélanie pour tout ce que tu as fait pour Petit Prince et d'avoir mis Dominique sur mon chemin. Alors que Dominique a 7 ans et souffre d'un grave problème à la jambe, elle décide qu'elle deviendra monitrice de ski. Sa détermination va lui permettre de vivre sa vie rêvée. À partir de 20 ans, elle travaille pour un club de vacances, en passant 4 mois de l'année au sport d'hiver et 7 mois au bord de la mer en Grèce. À 30 ans, la lecture d'un article a changé sa vie. Elle décide de tout arrêter et de consacrer sa vie à la création de l'association Petit Prince. Petit Prince a pour mission de réaliser les rêves des enfants malades. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Dominique Bayle. Bonjour Dominique!
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Alors avec mon parcours personnel, mais les gens comprendront, j'ai choisi un chronomètre.
On en parle après du pourquoi, du coup?
Bien sûr.
Ouais, ok. Est-ce que tu veux nous raconter où est-ce que tu as grandi?
Alors moi, je suis née à Amiens. Donc après, je suis venue à Paris. Et donc, je suis une Parisienne, mais j'aime profondément la montagne et je suis profondément amoureuse de la Grèce.
Et à quel âge t'es partie à Paris?
Oh, à l'âge de 5 ans, donc c'est vraiment très très jeune.
Et quel type de petite fille tu étais?
Alors, j'étais déjà archi sensible. Donc, sur les 4 enfants que nous sommes, donc il y avait déjà une grande, je suis la 3e, et donc, 2 garçons au-dessus de moi. Et j'étais quelqu'un d'hypersensible. Hypersensible, et il paraît qu'à la maternelle, tant que je n'avais pas fini un petit devoir, alors en général, c'était des dessins, je ne sortais pas de la classe. Et ça me poursuit toujours, d'ailleurs.
Et quand tu étais petite fille, du coup, c'était quoi tes rêves?
Alors, moi, mes rêves, j'en avais pas jusqu'à l'âge de 7 ans. Et j'ai eu un accident à une jambe. Et moi, j'ai la chance de rêver ma vie depuis l'âge de 7 ans. C'est-à-dire que ce problème que j'ai eu à une jambe, c'était la première année où nous partions à la montagne, dans le Jura, et je ne pouvais pas skier. Donc, j'étais avec mon plâtre, entre autres, en train de regarder donc les sapins qui étaient enneigés, de regarder les beaux moniteurs de ski. Et le souci que j'avais par rapport à ma jambe, c'était pas sûr que plus tard je puisse enseigner le ski. Donc, quand j'ai vu la montagne, j'ai vu les moniteurs de ski, j'ai dit à ma maman, je veux être plus tard, je veux enseigner le ski alpin, c'est tellement beau comme métier, dans un cadre qui est féerique, je m'accroche à ça, je serai monitrice de ski. Donc, j'ai cette chance, grâce à ce gros souci que j'ai eu, d'avoir eu des rêves qui me permettaient de me projeter dans l'avenir.
Et c'était quoi, du coup, ça, cette blessure à la jambe que tu avais?
Bah, c'est malheureusement, bon, ça a été un plâtre qui a été mal fait et ça a dégénéré en gangrène. Donc, j'ai eu des gros soucis parce qu'on savait pas comment allait évoluer cette gangrène. Et c'est pour ça que je ne savais pas si je pourrais enseigner le ski plus tard, parce que, bon, ça s'est quand même passé en 1963. Donc, pour moi, c'est le Moyen-Âge, c'est-à-dire le soutien psychologique d'un enfant, il n'y en avait pas. C'est pas une critique, c'est un constat. Et à la limite, grâce à ça, comme on dit souvent, quand on rencontre des situations difficiles quand on est enfant, on sublime un handicap. Bon, j'ai sublimé avec mon imaginaire qui m'a énormément aidée, parce que j'entendais des brides d'informations des médecins à voix basse qui étaient très inquiétante par rapport à mon avenir, et c'est ça qui m'a permis de tenir, de penser à pouvoir enseigner le ski, et que quoi qu'il arrive, j'y arriverai.
Et donc à ce moment-là, quand tu vas dans le Jura, donc c'est la première fois à la montagne, t'es jamais monté sur des skis?
Alors j'étais pas montée sur des skis effectivement, et je peux te dire que quand après 2 ou 3 ans après cet accident, ce problème, j'ai pu monter sur du ski, là. La chance, quand on est hypersensible, qu'on vit quelque chose qui peut être douloureux psychologiquement et physiquement, tout est démultiplié par rapport à quelqu'un qui a pas eu un souci majeur, qui a pris sur son imaginaire, qui a pris dans des inquiétudes, des doutes, avec ses adultes où je ne comprenais pas le discours, mais je savais qu'il y avait une gravité. Donc moi, je me suis forgée par rapport à ce que j'ai vécu. C'est une certitude.
Ouais. Et du coup, quand tu dis à tes parents, moi, je serai professeur de ski, comment ils ont réagi?
Alors bon, avec un père expert comptable, un grand frère qui était gynécologue obstétricien, pour eux, c'était tout de suite, tu gagneras pas ta vie avec en enseignant le sport. C'était ça. Donc c'est pas grave. Je savais que moi, j'avais mes objectifs et j'y croyais. C'est ça aussi la force. C'est que quand vous avez des paramètres qui sont incertains, des inquiétudes quand vous êtes une petite fille. En plus, c'est un âge quand même clé, 7 ans. Je souffrais beaucoup après à l'école d'avoir 2 ans de retard. Donc, il y a des situations qui font mal, mais en fin de compte, je ne remercierai jamais assez la vie d'avoir eu ce souci.
Et pourquoi t'as eu 2 ans de retard?
Bah, à cause du redoublement qu'on m'a imposé. En plus, par rapport à cette hospitalisation, à rester chez moi, donc parce que je pouvais pas aller à l'école.
Ouais, et puis il y avait pas les ordinateurs et tout ça à l'époque et Internet pour pouvoir avoir des cours à domicile, quoi.
Bah, il y avait des soins à faire soit à l'hôpital, soit à la maison.
D'accord.
Et donc c'était mon frère qui faisait comme il était gynécologue obstétricien, c'est lui qui me faisait les soins au niveau des pansements qui étaient à changer tous les jours, quoi.
D'accord. Et donc au moment de l'orientation, comment ça s'est passé du coup pour toi?
L'orientation professionnelle? Ah bah c'est très simple. Déjà j'ai très très mal vécu. Alors c'est vrai que le monde, je me suis réfugiée dans le monde des enfants moi. Donc j'étais déçue par les adultes. Parce que je savais que j'avais quelque chose de grave, mais je ne comprenais pas les mots qui étaient utilisés. Quand vous voyez votre maman qui pleure, qui parle à voix basse à l'hôpital. Il y a une angoisse qui existe, mais qui est phénoménale. Maintenant, on parle aux enfants, il y a des cellules psychologiques, on accompagne l'enfant. Moi, à l'époque, il n'y avait rien de ce côté-là. Donc, vous savez, j'ai été voir dernièrement justement le film de son vivant pour voir où on en était par rapport à l'approche des malades. Et je me suis rappelé grâce à ce film une phrase qui m'avait été dite à l'hôpital Robert Debré de la part d'une psychologue qui disait… Quand les enfants connaissent la vérité et qu'on utilise des mots appropriés à leur âge, eh ben, l'inquiétude est moins forte plutôt que l'imaginaire qui peut être terrible parce que justement, on va rendre une situation encore plus grave qu'elle ne l'est. Donc ça, moi, je l'ai connu et tant mieux que je l'ai connu puisque ça m'a permis après, par la suite, de créer l'association Petit Prince. Donc moi, ma vie, elle commence à l'âge de 7 ans, en quelque sorte. Donc je me suis réfugiée dans le monde de l'enfance pour 2 raisons. La première, de ne pas savoir ce que j'avais et aucun adulte ne m'expliquait ce que j'avais. Donc premier échec dans la relation avec l'adulte. Et le deuxième échec de la relation avec l'adulte, c'est que moi, j'avais une institutrice qui venait à la maison. Et j'avais un tempérament, j'en suis persuadée, où si on m'avait dit à l'époque, voilà, t'as eu plus d'une année qui était difficile, Il va falloir t'accrocher. On te fait pas redoubler. On verra à la fin de l'année si tu redoubles ou pas. Je pense que j'aurais réussi avec mon tempérament de ne jamais rien lâcher. Alors que là, je suis rentrée dans la classe et j'ai pas compris pourquoi je redoublais. Donc, deuxième échec dans la relation avec l'adulte. Donc, égal, j'ai pas confiance. Donc, mon imaginaire, les rêves, pour moi, c'était mon refuge.
Et donc, au moment de choisir, du coup, tes études, tu as fait un brevet d'état d'enseignement pour, du coup, devenir professeur
Non, j'ai suivi une scolarité normale. Ouais. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est que déjà, dès l'âge de 18 ans, j'enseignais le ski alpin dans des colonies de vacances. Donc, je cherchais mes petits boulots. Donc, j'étais folle de bonheur. Ensuite, je suis rentrée. Alors, à l'époque, il y avait trois écoles, évidemment, l'ESF. Hein, pour passer un diplôme de ski, mais je voulais aussi, moi, travailler dans les clubs. J'aimais bien l'ambiance du club. Donc, j'ai fait l'école. À l'époque, il y avait une école pour être moniteur de ski alpin à l'UCPA ou au Club Med, qui te permettait, en fin de compte, de vivre, de nourrir, loger, habiller, de vivre en club et de progresser au niveau du ski pour avoir les diplômes nationaux. Donc, moi, j'ai choisi la voie de travailler en club. D'ailleurs, je travaillais, c'était au Kappa Club à l'époque, qui n'existe plus, mais c'était justement un club qui était très familial. Et ma première saison de ski avec eux a été en Suisse. J'étais folle de bonheur. Je vais te dire pourquoi. Quand t'as 22 ans de mémoire, hein, nourri, logé, habillé, mais moi, quand je mettais les skis le matin pour faire quand même une saison de 4 mois à Pralou et ensuite 7 mois en Grèce, au niveau des sports terrestres. Mais moi, quand j'arrivais en haut des œufs et que j'attendais les clients, je me disais, mais je suis la plus heureuse du monde. Parce que déjà, j'aime transmettre. Quand on choisit un métier d'enseignement, c'est qu'on aime transmettre, qu'on aime partager. Et moi, je savourais, par rapport aux copains qui avaient le même âge, je sentais bien que je savourais mes 10, 20, 100 fois plus qu'eux. Parce que j'avais mon histoire, mais qui était enfouie. Alors, c'est ça qui est très, très, très drôle, quelque part. C'est que, bon, ce qui m'était arrivé à 7 ans, je l'avais quelque part zappé.
Tu l'avais complètement occulté. C'était dans l'inconscient.
Oui, bon, c'est la cicatrice que j'ai qui me la rappelle. Mais c'était à la limite, c'était ma cicatrice de guerre. Voilà, c'est drôle. Mais à l'école, par exemple, je n'aurais jamais supporté d'être deuxième en gymnastique. C'est pour ça, entre autres, que j'ai choisi le chrono, parce que pour moi, le chrono, c'est une notion de temps, d'accord? C'est une notion de sport. Et ce petit bruit, clac, des fois, je le remets, tac, 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 parce que ça me rappelle mon imaginaire au ski alpin. Évidemment, dans les slaloms, c'est le chrono. Quel que soit le sport que tu vas faire, il y a le chrono qui marque le temps. Et puis surtout, il y a une belle histoire avec le chronomètre, c'est que c'est ton temps est basé en fin de compte sur le chrono. Ta vie, regarde, on fait un pod, je sais pas combien de temps il va durer, mais ça va être du temps. Et alors la belle histoire, je sais pas si tu connais Kéros. Non? Alors Kéros est le dieu de l'occasion opportune. Il est souvent représenté comme un jeune homme ayant une épaisse touffe de cheveux à l'avant, d'une tête chauve à l'arrière. Il s'agissait de saisir sur les cheveux lorsqu'il passait toujours vide, très vite. On a tous connu dans notre vie des moments privilégiés, instants décisifs, où notre choix peut tout changer, des intuitions qui nous disent que maintenant est le bon moment pour agir, comme toi, quand tu as décidé de créer ce que tu as créé. Kéros est passé près de nous. Les Grecs de l'Antiquité définissent trois types de temps. Chronos, le temps physique, le temps du sablier de notre vie. Aion, le temps cyclique, les jours et les nuits, les saisons, les générations. Et Kéros, c'est le temps métaphysique, de l'opportunité, de l'action, de la décision. peut-être aussi le temps de notre plus réel vécu. Le temps est insaisissable, sauf à de rares moments dits opportuns, que les Grecs, ont appelé kéros. Dieu de la chance, il était le plus jeune fils de Zeus. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi, quand il est passé dans ma vie, tu as trois situations. La première, tu le vois passer, tu fais pas attention. La deuxième, tu ne l'as pas vu passer. Et la troisième, tu l'as attrapé au vol, comme j'ai attrapé au vol de créer l'association Petit Prince suite à un article.
Ouais. Et justement, avant qu'on parle de cet article qui a changé ta vie et celle de milliers de personnes, à ce moment-là, quand du coup t'as fait cette école pour devenir monitrice de ski, comment ton entourage il a réagi ?
Bah, tu sais, j'ai entendu toute ma vie, je sais pas ce que tu vas faire plus tard. Donc c'est très drôle. Moi, je m'accrochais à mes rêves. Ils voyaient bien, enfin ma famille, elle voyait bien que j'étais passionnée par le sport, qu'il y avait une dynamique, qu'il y a une énergie. En plus, bon, je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir donné une dynamique, une santé exceptionnelle. Donc, que j'ai toujours, la passion pour Petit Prince est identique au jour où j'ai créé l'association.
Ça c'est assez magique de se dire que ça fait bientôt 35 ans et que la flamme est toujours là.
Ah ben pour moi la vie c'est, je te dis, à 7 ans quand j'ai choisi d'enseigner la gym, d'enseigner le ski, je te disais tout à l'heure, mais à l'école je n'aurais pas supporté d'être deuxième en gymnastique. Et je me rappelle à l'époque, ça va faire sourire les auditeurs, c'est que j'avais toujours le prix de gymnastique qu'on donnait, qu'on remettait évidemment à la fin. Hein.
Ouais.
Dans les écoles. Mais si je pouvais revenir en arrière avec mes livres, parce que j'avais le premier prix de gymnastique avec le nœud rouge, mais je passais comme si j'étais, championne olympique. Ça, c'est le même effet que si j'avais été championne olympique. Et c'est cette dynamique, ce côté enfantin que je garde, j'ai même pas besoin de le préserver. J'ai la chance de m'émerveiller de tout et de m'approprier le bonheur des autres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que mes parents m'ont légué, sans s'en rendre compte. Hein. C'est extraordinaire. Donc, un petit bonheur, moi, me rend une journée très heureuse. Le malheur aussi, hein, parce que, évidemment, je suis dans l'excès.
Ouais, justement, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais je vais te la poser maintenant. C'est justement aujourd'hui, ta vie, c'est d'être autour de gens malades et donc de familles qui ont des enfants malades. J'imagine qu'il y a des moments, c'est pas forcément facile à vivre, de voir ces petits bouts de choux malades, d'avoir des pertes d'enfants dans les enfants que vous accompagnez.
Alors j'ai pris du recul en 35 ans, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance, quand j'ai créé l'association Petit Prince, donc suite à un article, on reviendra
après. Ouais.
Donc comme je dis, j'ai eu plein d'étoiles dans ma vie qui sont passées à des moments clés. Quand je crée Petit Prince, j'ai 30 ans, donc suite à l'article, et j'ai la chance, 8 mois après, inauguration de l'hôpital Robert Debré qui est à 10 minutes de chez moi. Et j'ai été voir le professeur de médecine et la chef de service pour leur dire, écoutez, voilà, je fais du ski, je suis convaincue que ce n'est pas parce que quelqu'un est gravement malade que dans le club où je travaille, on peut offrir des séjours de ski à ces enfants-là. Donc moi, j'avais la notion que ce n'est pas parce qu'on est gravement malade que la vie s'arrête. Donc j'avais ça. J'avais la passion. Et surtout la croyance que ce que je disais, j'avais raison, mais pas du tout par prétention, pas du tout, parce que je savais que moi-même, depuis l'âge de 7 ans, l'imaginaire, le rêve, être heureuse me portait, et la passion porte. Et donc ils m'écoutent pendant une vingtaine de minutes, professeur de médecine et la chef de service, et ils me disent, ils m'offrent premier cadeau extraordinaire, vous venez, alors, attention, on est en 1988. Alors, je rappelle aux auditeurs, pas de portable, pas d'ordinateur, c'était le Minitel et une imprimante. Hein. Avec ça, vous aviez une entreprise. Ils me disent, vous venez quand vous voulez, dans le service donc d'oncologie pédiatrique. Il y a une vingtaine de lits. Pour nous, vous faites partie d'une globalité de soins. Eh ben, je peux vous dire que c'était innovant. Et pendant 8 ans, 2 à 3 fois par semaine, ça pouvait être le samedi, le soir, le dimanche ou le mercredi, je venais, donc je faisais partie de l'équipe, on me préparait à rencontrer des enfants dans les chambres, on me parlait des pathologies pour éviter que je fasse une gaffe ou que je sois maladroite ou que je sois pas à ma place, et j'ai compris l'importance d'être, un, à sa place, deux, d'être équilibré. Pour ça qu'au bout de 3 ans, j'ai été voir un psy, parce que assister à la levée des corps des enfants, comme j'ai pu le faire, ou aux enterrements, vous sortez pas indemne. Et la chance que j'avais, je ne remercierai jamais assez, évidemment, les parents, les infirmières, les médecins. À l'époque, les infirmières restaient 5 ans, parce que moi, je connaissais tous les enfants. Donc, un rythme de entre 8 et 10 ans à aller régulièrement comme ça à l'hôpital Robert Debré, j'étais vraiment au cœur de la vie de ces enfants qui me confiaient des tas de choses, enfants, adolescents, et je peux vous dire que il m'est arrivé de lire des livres. J'ai rien appris de plus parce que j'étais dans le vécu. Et donc j'ai été soutenue bien évidemment par un psychologue aussi, mais à l'époque, je ne le disais pas. Il y a une époque, jusqu'à l'an 2001, à peu près, les attentats de New York, où dire qu'on était, on faisait un travail avec un psychologue, ça voulait dire qu'on était déséquilibré, hein, quand même, faut le savoir. Maintenant, il y a une cellule psychologique dès qu'il y a un drame, et tant mieux, et tant mieux. Et heureusement que j'ai eu ce rêve, mais je n'en pouvais plus, parce que le gros problème que j'avais, c'est quand vous avez une famille qui vous demande d'aller à un enterrement, ou d'aller à la levée de corps, mais j'aurais culpabilisé de ne pas le faire. J'avais pas de distance, et ces distances-là, je les ai apprises progressivement, pardon, c'est l'émotion, sur le terrain, tu comprends, Charlotte?
Ouais, c'est... Clairement, c'est vrai que c'est fou. Même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont suivis psychologiquement. J'en parlais récemment, tu vois, avec une personne qui est gériatre, qui me disait qu'en fait, les maladies mentales, c'est encore quelque chose qui est très. Alors là, on parlait pas d'une maladie mentale, mais on parlait du fait que de se faire accompagner parce qu'on a des, on est tous sensibles, on a tous des épreuves dans notre vie où on a besoin d'aide. Et aujourd'hui, le fait de le dire, c'est encore vu comme quelque chose. Pour certains, de l'incompréhension, du jugement, alors que si tu te dis, ben voilà, je me suis cassé une jambe, c'est pas, on va pas du tout te dire on va pas du tout t'appréhender de la même façon. Non, vas-y, excuse-moi.
Non, mais moi, j'ai tendance à dire, quelqu'un qui a mal aux dents, il va dire à tout le monde, je vais chez le dentiste. Quand on a des mots à l'âme, mais pourquoi? Mais c'est heureusement que il y ait ces personnes qui peuvent vous accompagner. Moi, ça m'a sauvée. Je pense que je ne serais plus à Petit Prince si je n'avais pas été accompagnée par un psychologue pour me protéger. Et quand je le disais aux mamans, parce que évidemment au début de Petit Prince, il y a eu un rêve, deux rêves, trois rêves. Donc après, quand j'ai connu plusieurs familles, je leur disais que j'étais accompagnée par un psychologue, et il me disait mais t'as raison avec tout ce que tu vois, mais tu vois, moi j'irai pas voir un psy parce que je suis pas folle, alors qu'il me considérait pas folle. Ouais. Mais tu vois, il y avait cette approche et ces sentiments que pouvaient avoir les parents. Je les juge pas, hein, parce que c'est tellement épouvantable d'avoir son enfant qui est hospitalisé avec une pathologie qui est très lourde. Je ne juge pas, mais j'ai entre guillemets la chance, moi, d'avoir vu l'évolution en 34 ans des soins en pédiatrie et de l'évolution du soutien psychologique en pédiatrie.
Ouais. Et alors, juste un petit retour en arrière, du coup, avant que tu lances Petit Prince. Du coup, à cette époque-là, donc, tu étais l'hiver monitrice de ski et l'été... T'étais en Grèce.
Alors là, j'enseignais la gym aquatique. Alors, l'hiver, c'était un village de 200 personnes, un grand chalet de 200 personnes. Et l'hiver, l'été, je partais 7 mois en Grèce et j'enseignais la gymnastique. Alors ça, il y avait 600 personnes. Donc, j'organisais des Olympiades. La semaine suivante, des Jeux nautiques parce qu'on avait la chance d'avoir une piscine olympique. Les tournois, donc j'étais dans l'animation, l'enseignement du sport, du tennis de table, enfin, mais j'étais comme une enfant dans un jardin d'enfants, oui, je le dis. Donc entre 20 et 30 ans, une vie pour moi féerique, évidemment, dans des endroits qui étaient magnifiques, avec toujours cette pensée en me disant, mais je suis payée pour réaliser mes rêves. Et quand je déjeunais avec des clients ou dînais avec des clients, quand je les entendais dire, oh là là, Demi, tu fais quoi cet hiver? Alors, je leur disais que j'allais enseigner le ski. Oh là là, quand je pense que nous, on travaille une année pour nous offrir une semaine en Grèce. Mais moi, je savais le privilège que j'avais. Donc, ça t'équilibre, mais d'une façon extraordinaire. Je restais dans le monde de l'enfance. Et je restais auprès de la mer. Et je restais du côté des montagnes. Donc, j'étais toujours dans un environnement qui était sain, en enseignant le sport qui me passionnait. Aucun, zéro souci dans ma tête.
Ouais. Et donc là, un jour, tu lis un article qui va changer ta vie.
Alors oui, donc la spontanéité, l'impulsivité, hein, moi je le reconnais, je fais pas les choses à moitié. Donc je devais repartir faire une saison de ski. Alors là, j'avais pris du temps pour préparer un professorat de culture physique dans un Krebs, donc qui était à Montry. J'étais contente. Donc
c'est quoi un Krebs?
Krebs, c'est les centres, tu sais, pour l'éducation physique et sportive, un centre régional. Voilà, donc qui te forme pour être diplômé. Voilà. Et donc j'allais repartir pour une saison d'hiver. Quand j'ai fini ce Krebs, et je tombe sur un article. Alors, je ne devais pas être dans cet endroit-là. L'article est sorti ce week-end où j'étais, donc chez mes parents qui étaient à Beaumont. Donc, c'est à 8 km de Clermont-Ferrand. Donc, c'était pendant les vacances de la Toussaint, le 14 novembre 1987, en fin de compte, ma deuxième naissance. Je lis un article qui racontait dans le Figaro magazine, donc on est en 87, j'attendais mon papa pour qu'on aille tous au restaurant. Donc, l'article sort ce week-end. D'accord? Moi, à l'époque, je lisais l'équipe, hein. Je lisais pas le Figaro magazine. Deux, week-end, on est à Clermont-Ferrand. Deux, l'article sort ce week-end où je suis là. Il aurait pu sortir une semaine avant, une semaine après, je l'aurais jamais lu. Trois, ne lisant pas quand même le Figaro magazine, je devais aller acheter l'équipe, justement. Et, j'attrape au vol le, Figaro magazine de ma maman. Et je vois un titre où il y a marqué « Le rêve des petits incurables ». Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il y avait une photo magnifique de trois enfants habillés de la tête aux pieds en clown, avec la perruque, ils n'avaient pas de cheveux, le petit nez rouge, et ils riaient à la vie et aux éclats. Et donc je souris, et puis je lis l'article, et l'article « Absolument pas misérabilisme », était indiqué que sur les trois enfants, il y en a deux qui savaient qu'ils allaient mourir, et le troisième, son pronostic vital était extrêmement menacé. Et je regarde ça, et je me dis, mais c'est fou, la force de ces enfants. J'étais avec ma belle-sœur, infirmière, et je dis, il faut qu'on crée ça, c'est pas possible, c'est typiquement américain, il faut qu'on se lance en France. Et j'ai appelé le lundi le journaliste, encore une étoile. Donc, alors, deuxième étoile quand même de l'article. Troisième étoile, j'appelle le journaliste au Figaro Magazine. Alors, ça va te faire sourire. C'est-à-dire, j'appelle le Figaro Magazine en disant « Bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur Jean-François Mongilbeau ?»« Oui, ne quittez pas, on vous le passe. » T'imagines maintenant ? T'imagines maintenant qu'il faudrait que je fasse un mail, un courrier, un… Enfin, je l'ai trois mois après. Il décroche. Je me présente, je dis voilà, avec ma belle-sœur, on veut créer une association. Est-ce qu'il en existe une en France? Moi, je suis prof de sport. J'ai envie d'offrir à des enfants des cours de ski gratuits. Il me dit non, ça n'existe pas. J'ai fait une recherche. Il me dit en tout cas merci pour vos encouragements par rapport à l'article. Et il me dit écoutez, là, je vais partir en Afrique faire un grand reportage. Je lui dis attendez. Je lui dis bon, on va créer l'association avec ma belle-sœur, elle est infirmière. Et il me dit écoutez, bon, appelez-moi si ça marche, on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Je le rappelle peut-être un an après. On avait réalisé 8 rêves et il a dit je vous fais un article dans le Figaro magazine.
Génial.
Un 4 pages extraordinaire. Ah. En plus, il y avait la femme de Alain Decaux, grand historien pour ceux qui connaissent, qui était, elle, reporter, photographe. Et donc, on a un 6 pages avec des photos magnifiques, donc d'enfants qui avaient été dans un parc animalier. Il y avait une enfant qui était passionnée d'astronomie. Enfin, mais ça a fait l'écho. Vous pouvez pas, tu peux pas t'imaginer. Je dis vous parce que je parle en même temps aux auditeurs. Comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont tous avec nous, là, sur des chaises, à nous regarder avec bienveillance. Mais un écho qui a propulsé, donc, Petit Prince. Troisième, alors, dans les chances, on est d'accord, l'hôpital Robert Debré, ok, qui croit dans le projet. L'article, donc, de 6 pages, hein. Alors ça, c'est, on est revenu en arrière, mais les 6 pages. J'ai été voir la fondation Saint-Exupéry. Alors à l'époque, c'était les évidemment la famille, et j'ai eu la chance de rencontrer le neveu de Saint-Exupéry, petit neveu de Saint-Exupéry, qui a cru dans l'association. Et je dis bravo, je ne les remercierai jamais assez, parce que être capable de confier le nom de Petit Prince à une association qui est absolument pas connue et qui se lance quand même sur un terrain glissant, l'enfant gravement malade, avec des pathologies extrêmement lourdes, c'est une prise de risque. Donc, je n'ai eu que des petites étoiles comme ça dans mon ciel, qui a permis, en tout cas, de lancer Petit Prince et toujours, toujours de croire au projet. J'ai toujours cru en projet, au projet, parce que je ne me suis jamais imaginé que des futurs partenaires, des gens qui voulaient, en tout cas, nous accompagner, puissent nous refuser quoi que ce soit. C'était pas pour nous, c'était pour les enfants malades. Et comme je connaissais, moi, les bienfaits de encourager l'imaginaire, d'aider les enfants ou les adolescents, ça ne pouvait être qu'un plus dans le parcours de soins. Et c'est au bout d'un an que j'ai réalisé qu'il ne fallait pas être dans le ponctuel. C'est-à-dire qu'au tout début, j'étais dans le ponctuel.
C'est-à-dire ?
Alors, au tout début, donc on faisait un rêve, et après, on laissait la vie continuer son chemin pour chaque enfant et ado. Et puis, au bout d'un an, j'ai un peu comparé ça, quand j'allais à l'hôpital Robert Debré, entre autres, j'ai comparé ça à l'enseignement de ski. C'est-à-dire, quand j'enseignais le ski, c'était pas en un cours, c'était super déjà d'avoir un cours de ski. Non, c'est dans la répétition qu'on atteint des objectifs qui sont intéressants là. Et donc, le parallèle, c'est, mais je voyais ces enfants atteints de cancer, de leucémie, mucoviscidose, des myopathies dont on ne parlait pas, hein, les maladies génétiques, on reviendra dessus, mais au tout début de Petit Prince, hein, c'était les cancers et les leucémies, hein. Et je voyais ces enfants récidiver avec des grandes inquiétudes, parce que là, la notion de mort, elle peut apparaître, hein. Quand vous avez un traitement qui ne marche pas et on va recommencer, vous avez d'une part sur le plan physique des inquiétudes de la part des parents et de l'enfant ou de l'ado, et en plus, à l'époque, les 10 premières années de Petit Prince, moi, je demandais si l'enfant était au courant de sa maladie, parce qu'elle était cachée, et moi, c'est un constat, j'ai vu des enfants qui connaissaient la pathologie être acteurs de leurs soins, acteurs de leur vie, des enfants qui ne connaissaient pas leur pathologie, qui étaient désangoissés, des enfants angoissés. Donc, j'étais sur le schéma de demander aux parents, il sait sa maladie, pour éviter la gaffe, quoi, le dérapage. Et donc, quand j'ai eu, d'une part, les parents et l'enfant psychologiquement être dans une récidive, avoir beaucoup de doutes sur l'avenir, plus des traitements qu'on recommence, faut avoir du courage quand on a 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'importe, de se dire ça y est, on est reparti. Et c'est là où je me suis dit aussi, mais si on continue à réaliser les rêves des enfants ou d'encourager leur imaginaire, on est là encore à nouveau au bon moment, sans être le psychologue du service ou d'être le Père Noël ou de prendre la place des parents. C'est de se dire, en fonction de l'évolution de la maladie de l'enfant, les deux facteurs déterminants pour qu'on ait une cadence dans l'accompagnement, dans la durée avec l'enfant, c'est l'état physique et ou psychologique. À partir de là, avec des pathologies au long cours comme la mucoviscidose, on faisait pas des rêves tous les mois. Parce que ces pathologies au long cours, elles ont des phases de paliers où la maladie les laisse en paix, mais on sera là à nouveau dès que ça repart avec une gravité, quoi.
Ouais. Et toi, du coup, quand tu t'es dit, allez, je me lance, je lance l'association, concrètement dans ta vie, comment tu t'es mis en route? Donc tu t'es dit, allez, on crée l'asso, mais t'étais t'as arrêté de bosser. Comment ça s'est passé?
Ah bah j'ai eu encore des étoiles dans mon ciel. Déjà j'ai dit au club où j'allais partir que j'avais des problèmes de genoux, parce que je me suis dit je vais me donner quand même 2 mois avant que je parte au ski pour voir si ça marche ou pas. Donc j'envoie des CV mais partout à Paris. Je crois que j'ai fait toutes les salles de gym pour dire voilà, prof de culture physique, je recherche un emploi et tout. Mais on était au mois de novembre, début novembre, hein, 14 novembre. Donc les salles de gym, elles avaient les profs. Donc je dis à ma belle-sœur, bah malheureusement, moi dans 15 jours je repars au ski parce qu'il faut bien que je mange, il faut bien que je me nourrisse. Donc mes parents très gentiment me prêtaient leur appartement à Paris, Dieu soit loué. Mais à 15 jours près, donc j'allais repartir. Et puis un jour, donc j'étais dans l'appartement de mes parents et je reçois un coup de fil. Et j'étais sur le palier pour aller déjeuner avec un ami. Et je me dis bon, est-ce que je rentre parce que j'avais pas de répondeur. Bon, je rentre.
Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable.
T'as tout compris?
Ouais.
Je me dis, bon, je vais peut-être avant de partir, tu te rends compte, j'étais sur le palier, je fermais la porte. Donc, je re-rentre. Et je dis, c'est peut-être mes parents qui m'appellent. Bon. Et je décroche. Tu vas pas me croire, hein. Et j'entends, allô, demi, c'est Alain, tu te rappelles de moi? J'étais kinésithérapeute. Donc, je suis en train de racheter une salle de gym. Coûte bien. Non, mais au niveau du timing, hein, dans la vie. Il me dit, voilà, je me suis dit à tous les coups, t'étais au ski ou tu revenais de Grèce. Je me suis dit, j'ai une chance sur je sais pas combien de te rappeler et de t'avoir au téléphone. Et je lui dis, dis-moi. Voilà, je rachète une salle de gym. J'en rêvais. Ça fait 15 jours que je l'ai acheté. Mais maintenant, je cherche un prof de gym. Est-ce que t'es partante? Non, mais t'imagines le timing?
Mais c'est fou, hein? Ouais.
Je lui dis, attends, on déjeune ensemble. Demain, pas de problème. Je déjeune avec lui le lendemain. Je lui dis, écoute, voilà, moi, j'ai, avec ma belle-sœur, une idée de créer une association qui va s'appeler Petit Prince pour réaliser les rêves d'enfants malades. Donc, je lui explique le topo. Je lui dis, par contre, je pourrais enseigner très tôt le matin jusqu'à 14 heures. Mais moi, l'après-midi et les soirées, pour construire l'association, je serai pas là, mais je vais te trouver une amie qui était au Crêpes avec moi. Donc voilà.
C'est fou.
Imagine,
hein.
Quand tu penses à l'article qui sort le bonjour, hein, avec mon papa qu'on attend, qui reste je sais pas combien de temps dans la salle de bain, qui me permet de lire le Figaro magazine. Ensuite, je suis sur le palier, mais je te jure que je me suis posé la question en disant bon bah de toute façon on me rappellera, c'est pas la peine, je prends l'ascenseur, et que je me revois. T'imagines, 34 ans après, rouvrir la porte pour décrocher le téléphone. C'est drôle, mais c'est magnifique.
Ouais, il y a des mots, c'est marrant parce que alors rien à voir avec ce sujet, mais ouais. ça me fait penser mon mari aujourd'hui, qui est le père de mes enfants, m'a appelé un jour parce que je cherchais un stage et je lui avais envoyé un message et il m'avait pas répondu. Et on se connaissait sans se connaître. Et pareil, coup de téléphone, je me rappelle, je pense toute ma vie, je me rappellerai le moment où j'avais ma convention de stage et je me dis bon, tant pis. Et là, il m'appelle en me disant, écoute, il y avait une stagiaire. Elle vient de nous planter. En gros, on est un peu dans la merde. Moi, mon stage, ça allait pas du tout. Et tu te dis, mais en fait, cet alignement des planètes, c'est quand même, c'est aujourd'hui, ben voilà, on est mariés, on a des enfants, et tu te dis, si j'avais pas répondu à cet appel, tu te dis, c'est fou, quoi.
Ah oui, ah mais oui.
Ouais.
Moi, quand je repense à ma vie, même depuis l'âge de 7 ans, mais quelle. Il y a un bon Dieu là qui me protège et c'est fou parce que quand j'ai été petite, j'ai failli mourir à 3 reprises, noyée, un camion poubelle qui était rentré dans le mur où je jouais sur un tas de sable et il paraît que c'était la première fois où ma sœur était, tu sais, ça s'appelle je crois les youpala pour avancer avec ses petits pieds. Moi, je commençais à marcher et c'était la première fois que j'essayais de grimper les marches pour rejoindre ma maman qui nous regardait par la fenêtre. Elle était persuadée qu'on était sous le camion. C'était la première fois que je me déplaçais pour aller rejoindre ma maman. Et puis la troisième fois, un petit camionneur dans un camion de poubelle. de pompier que j'avais avalé. Donc, et un jour, je me suis dit, à Petit Prince, je me suis dit, après, j'ai dit quand même, oh, j'ai de la chance parce que j'ai des anges gardiens. D'ailleurs, aujourd'hui, je me dis que mes anges gardiens sont tous les enfants qui nous ont quittés et qui sont toujours à mes côtés. Moi, c'est ce que je me dis.
Ça me donne des frissons. Ouais.
Oui, parce que moi, ma réussite, c'est parce que j'ai eu des gens qui m'ont entourée. Hein. C'est pas moi toute seule. Hein. Moi, j'ai l'impulsivité de faire les choses avec du cœur. Hein, et c'est sûr que si j'avais pas ce côté impulsif, hein, dans les émotions, dans tout, eh ben, j'aurais pas craqué sur l'article.
Ouais.
En me disant, alors que j'avais 30 ans.
Que t'avais la vie rêvée.
Bah, j'avais la vie rêvée et j'étais partie encore pour des années à enseigner. Donc, ça m'a permis, revenons donc à Paris. Donc, je ne suis pas partie enseigner le ski. D'accord? Et je suis restée avec ma belle-sœur à construire l'aventure Petit Prince.
Top. Et donc, pendant combien de temps, parce que ça, c'est une grande question quand tu vois des personnes qui sont directeurs d'associations, il y a un moment, il faut manger, faut pouvoir se payer pour vivre. Comment ça se passe pour pouvoir se rémunérer quand tu es dans une association et au bout de combien de temps tu as pu vivre et te consacrer à 100% sur ce projet?
Alors, la première chose, c'était… Alors, ma belle-sœur et moi, c'est nous qui mettions de l'argent hein, dans la cagnotte. Ça a commencé chez elle, hein, dans le 15e arrondissement. Donc, ce qui était le plus dur, c'était pas trouver de l'argent. Moi, j'ai mis 3 ans, tiens-toi bien, à me dire, est-ce que je poursuis Petit Prince ou pas? Parce que prendre le métro, ne plus enseigner le ski… Être dans un cadre où il fallait que je m'achète une baguette de pain parce qu'il faut pas oublier que pendant 10 ans nourrie, logée, habillée, quand tu dois t'acheter ça chamboule, hein, ça chamboule, c'est quand même un grand écart. Hein. Alors au début, tu mets de l'argent parce que c'est pour quelque chose qui te passionne. Ensuite, donc on était chez ma belle-sœur au début. Après, on a commencé à être connus et à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir, en tout cas, d'une part, avoir des locaux. Alors, c'était un 15 mètres carrés au 6e étage sous les combles, mais on avait notre petit chez nous. Moi, je me rappelle, les partenaires, quand ils devaient monter les 6 étages donc sous les combles, alors l'hiver, il faisait froid, moi, j'étais ravie, et l'été, c'était, j'avais l'impression d'être en Grèce. Donc, on faisait des rendez-vous, mais chronométrés, une fois de plus, parce que 15 mètres carrés, quand t'as une photocopieuse, t'as 2 chaises et t'as plus de place. Donc, et donc, c'est simple. Après, j'ai été rémunérée, peut-être, je sais plus au bout de combien de temps, mais 6 francs, 6 sous. C'est-à-dire de quoi manger. Mes parents me prêtaient leur appartement. Et ça m'a permis de rester. Donc, je m'achetais rien. J'avais de quoi simplement pouvoir manger. Donc,
et puis il fallait refaire accessoirement, il fallait refaire un minimum de garde-robe parce que t'étais ni en Grèce ni au ski.
Tu sais, tout ça, le matériel, alors chez moi ça ne compte pas le matériel. Moi l'essentiel c'était que je puisse simplement manger, d'être dans les locaux, donc nos 15 mètres carrés, dès 7h du matin, d'accord, et de quitter le soir à minuit. Même le samedi et dimanche. Alors j'arrivais à donner quelques cours de gym le week-end, mais une fois de plus, t'es dans une telle dynamique, tu crois tellement dans le projet que rien ne t'arrête. Le 1er mai, les jours fériés, tu connais plus. Moi, j'ai fait des Noëls fantastiques où le 24 après-midi, j'allais à l'hôpital Robert Debré amener des cadeaux comme le Père Noël et de découvrir qu'à 17h, quand les parents devaient rentrer et que les enfants restaient tout seuls dans leur chambre, que toi, tu sais que tu vas fêter ça en famille. Là, tu partages le chagrin de ces enfants. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas des maisons comme les maisons McDonald's qui accueillent les familles. Ça a hyper évolué. Moi, j'ai connu des mamans qui dormaient dans un fauteuil parce qu'elles pouvaient pas revenir à Toulouse ou ailleurs pour changer son garde-robe et qui étaient dans un fauteuil comme une malheureuse, quoi. C'est ces prémices qui te permettent de mieux saisir l'environnement quand un enfant est gravement malade, quoi.
Ouais, t'as vraiment. Et aujourd'hui, du coup, on parlera juste après de toute l'évolution et ce qu'est Petit Prince aujourd'hui. Toi, tu continues du coup à, malgré le fait que l'association soit quand même assez grosse, à pouvoir justement passer encore du temps avec les enfants.
Alors, il y a une chose que je n'ai pas quittée. Tous les courriers qui nous sont adressés à l'association Petit Prince pour une demande de rêve, je les lis également. Je fais partie du comité consultatif pour deux raisons. La première, ça va te surprendre, mais si je te donnais un courrier de 1987, un courrier de 1997, d'accord, etc., 2007, 2017 et tout, on va prendre un thème qui est récurrent, les animaux. C'est quatre courriers différents, d'accord? Tu serais incapable de dater ces courriers pour la simple raison, c'est que toutes les émotions qui sont partagé dans ces courriers n'ont pas changé parce que la douleur des parents, elle est toujours la même 34 ans, 50 ans après. Ça sera toujours la même émotion. Donc, j'ai besoin, moi, d'être toujours comme si c'était le premier jour de l'association Petit Prince. Et aujourd'hui, t'imagines, 34 ans de courriers que j'ai lus, je suis capable de te dire que certains courriers ont été écrits la nuit. Parce qu'il y a une émotion que je connais la nuit à l'hôpital où il y a des confidences qui sont faites dans le chagrin de la part des parents où ils vont se livrer pour s'appuyer sur l'association Petit Prince pour partager leur douleur, pour partager leur peine. Ça, pour moi, supprimer ça, mais je quitte Petit Prince, je suis plus. Je serai plus dans Petit Prince. La deuxième, je ne m'impose pas, je m'autorise à venir à toutes les réunions rêves pour écouter les rêves racontés par les bénévoles. Et très souvent, quand je raconte à l'extérieur un rêve que j'ai trouvé magnifique, quel qu'il soit, les gens en face de moi me disent « Oh là là, t'as dû vivre des moments fabuleux ». Et je dis « Non, non, c'est pas moi qui l'ai raconté, mais le bénévole l'a raconté avec une telle émotion, une telle intensité, que ça me rappelle les rêves que j'ai faits pendant des années, des années, des années ». Tu comprends? Et donc là, je suis toujours, entre guillemets, cofondatrice de l'association Petit Prince dans l'humain, directrice générale, pour moi c'est une étiquette, cofondatrice, c'est-à-dire que j'ai une expertise, il n'y a pas de prétention quand je dis ça, parce que tout ce que j'essaie, c'est grâce aux parents, maman, papa, ado, enfant. Moi, à l'hôpital, dans les hôpitaux où j'ai pu aller après, les confidences que j'avais des ados ou des enfants, ils les confiaient parce qu'ils savaient que j'étais pas psychologue, que j'étais quelqu'un qui allait réaliser les rêves et qui allait s'intéresser au vécu d'un enfant. Tu comprends? Et donc, je parle souvent avec les bénévoles. À l'association, 34 ans après, ma porte, elle est ouverte. J'ai besoin d'être à côté de mes équipes. Si tu n'es pas à côté de tes équipes, si tu n'es pas près de... du premier jour où tu as créé quelque chose, tu perds le fil, tu perds le fil. Et je suis heureuse que mes équipes n'aient pas ce sentiment, attention, la cofondatrice, 34 ans, pas du tout, on rigole ensemble, on partage des événements, donc oui, je suis une femme de terrain, et si tu perds le terrain, mais il faut changer de métier.
Ouais. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier Mélanie qui nous a mis en relation, qui a été bénévole pendant de longues années et c'est vrai que 9 ans, ouais, c'est son fils a 10 ans parce qu'il a nos enfants ont exactement les mêmes âges et donc au bout de quand Gaspard a eu 1 an, du coup elle vous a rejoint et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle me parlait de toi, elle me parlait de toi avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration. Et c'est vrai. Et je pense qu'en effet, c'est sûr que ton énergie, ça se dit qu'en fait, comme disait Laetitia Milo, là, c'est l'interview que je diffuse ce matin, impossible n'est pas français.
Ouais, mais moi, j'ai besoin de mes équipes. Et puis, il faut savoir, j'en parle aux auditeurs, ils sont drôles, mes bénévoles et mes salariés. J'ai une équipe qui est dynamique. On est dans la vie, on n'est pas dans la mort, même s'il faut traverser les décès des enfants, on en parlera de quelle façon on le traverse. Moi, je veux, en tout cas en tant que cofondatrice, être la même que le premier jour et je me force pas parce que je suis passionnée. Je crois que la vie, est-ce qu'elle est intéressante si on n'a pas de passion, quand on a la chance d'être en bonne santé? Mais moi, quand j'ai des petits soucis, oh là là, je relativise très très vite, hein, parce que quand on a passé une journée dans un hôpital d'enfants gravement malades, où la maladie a abîmé ces enfants-là en plus, non, faut, j'ai l'humilité, de toute façon, à Petit Prince, moi je dis, il faut les trois H. L'humour, l'humilité, l'humanité. C'est très simple. Tu viens à Petit Prince dans nos locaux, j'espère que tu passeras un jour,
Avec plaisir.
tu vas te dire, mais il y a des photos d'enfants qui rayonnent, des photos d'enfants qui sont heureux, c'est l'aventure, c'est l'aventure. Donc voilà. Et Mélanie, qui est quelqu'un de très drôle aussi, eh ben, je m'entends avec elle, je ne mets pas de distance avec mes bénévoles et mes salariés. Les bénévoles sont considérés comme des salariés, les salariés comme des bénévoles, au niveau de l'état d'esprit.
Ouais, c'est une seule et même équipe. Et d'ailleurs, du coup, aujourd'hui, vous êtes combien en tout chez Petit Prince?
Alors, on est une centaine. Entre les rêves, l'équipe des rêves, l'équipe des hôpitaux, l'équipe administrative, collecte, comme partenaire. Donc, je crois que j'ai oublié personne, surtout. Donc, il y a une dynamique dans les locaux dont je rêve toujours. Si on m'avait dit, quel a été ton propre rêve par rapport à Petit Prince? C'est d'amener ce que j'ai vécu en club de vacances, où c'est du collectif, et j'y suis arrivée. Au bout d'un an, je me suis dit, mais c'est pas possible, je me rends compte que les familles, les enfants, ils ont envie de rire. Il faut que je mette en place dans mes recrutements ce que j'ai vécu en club, en collectif, où on est là pour s'amuser, on est là pour rêver, on est là dans l'imaginaire, on est là pour mettre de côté les soucis, et hop, t'embarques des équipes comme ça, c'est ça?
Et tu disais, du coup, dans les équipes, il y a les personnes donc, qui s'occupent de réaliser les rêves et les personnes qui s'occupent de la relation avec les hôpitaux. Qu'est-ce que c'est là, du coup, la différence?
Alors, l'équipe des bénévoles rêves sont ceux qui montent un projet de A à Z. L'équipe des hôpitaux, donc bénévoles plus les trois salariés avec le médecin, donc je me suis vite rendu compte, il y a à peu près une dizaine d'années, enfin depuis longtemps, parce que je travaillais avec des bénévoles médecins, mais il y a 10 ans, je me suis dit, il faut une cellule hôpital pour renforcer notre crédibilité. Et puis surtout par rapport au nombre de pathologies vers lesquelles nous sommes allés, parce qu'au début, comme je disais tout à l'heure, on réalisait le rêve des enfants atteints de leucémie, de cancer. Et très progressivement, on a ouvert vers la mucoviscidose, vers la myopathie, l'ostéogenèse imparfaite. Tu connais cette pathologie? C'est ces enfants qui, malheureusement, c'est la maladie des os de verre.
Oui, je connais, ouais.
Où très longtemps, on pensait que c'était les parents qui battaient leur enfant, et on s'est aperçu que c'était une maladie génétique. Quand on sait qu'il existe entre 7 000 et 8 000 maladies génétiques, grâce au Téléthon, moi je le dis, les personnes atteintes de pathologies génétiques, dont les enfants, on n'en entendait pas parler. Et le Téléthon a permis à ces familles de dire, mais moi, mon enfant, il a ça. Il n'a pas de cancer, il n'a pas une leucémie, ça ne se voit pas, mais si vous saviez comme sa maladie est grave. Et ce que je trouve magique, le Téléthon a permis à ces familles-là de dire, mais on existe aussi, est-ce que vous pensez qu'on peut réaliser leurs rêves? Alors, grâce à ça, bien évidemment, l'éventail des pathologies est extrêmement large à l'association Petit Prince, référencé évidemment sur notre site, association Petit Prince.
Je mettrai le lien sur, je vous taguerai sur les réseaux sociaux et je mettrai le lien sur le blog pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus.
C'est adorable.
Oh, c'est normal.
C'est sûr qu'on ne prend pas toutes les pathologies, mais je peux vous dire que l'éventail est très large. Donc, le pôle hôpital, un, il est chargé donc d'aller dans les services pédiatriques de France et de Navarre. On est en lien avec 150 services pédiatriques. T'imagines? Et donc, ce qu'on souhaite de toute façon, c'est qu'il y ait cette, pareil, la complicité entre les services pédiatriques et l'association Petit Prince. C'est-à-dire du partenariat en quelque
Ouais, c'est un
sorte.
travail main dans la main. Vous avez pour objectif de soigner ces enfants et les moyens ou leur apporter du bonheur.
Alors nous, on n'est pas là pour soigner, hein, je le
Non,
rappelle.
eux, non, eux, oui. Pas...
Voilà. Et ils savent qu'on peut être dans le parcours de soins, on peut être à un moment clé complémentaire. Et c'est ça qui est génial, hein. Combien de médecins s'appuient sur la mission de Petit Prince pour pouvoir poursuivre les soins ou des annonces. Je te donne deux exemples. Un médecin pédiatre que j'adore, qui s'appelle le docteur Ben Saïd, s'il entend, il se reconnaîtra. Et ben, quand il fait une ponction lombaire à un enfant qui a une leucémie, donc c'est quand même une situation qui agresse. Il allonge donc l'enfant sur le côté ou assis, il y a la maman qui est là, et il demande à l'enfant de raconter « mais t'aimes quoi ?» pour mieux le connaître. Donc l'enfant se confie en disant « écoute, n'aie pas peur, tu vas pas avoir mal, raconte-moi ce qui te plaît. » L'enfant donc est libéré, pas angoissé, et à la fin il lui dit « écoute, bon bah ça y est, je t'ai fait ta ponction lombaire, par contre je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Moi je connais une association qui peut-être va pouvoir réaliser tes rêves. Donc madame, s'adresse à la maman, je vais vous donner l'adresse, vous envoyez un mail ou vous écrivez la lettre à la main, et puis on va voir ce qu'on va faire ensemble. Moi, je les connais bien depuis des années. C'est extraordinaire.
Ah, c'est génial.
Un autre exemple. Je travaillais avec une psychologue qui était beaucoup en relation avec les enfants atteints de tumeurs au cerveau. Donc, c'est particulier parce que ça engendre aussi... des soucis, soit dans le langage, au niveau oculaire, etc., etc. Et elle s'appuyait sur les passions de l'enfant pour rentrer en contact avec lui, plutôt que la psychologue en blouse blanche qui va prendre peut-être un autre chemin. Et un jour, elle me téléphone en disant « Écoute, Demi, remercie tes bénévoles, parce que grâce à la mission de Petit Prince, ça me permet d'avoir un point de départ avec le patient que j'ai en face de moi, pour l'amener à ce qu'il me raconte ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas non plus, et de pouvoir faire un travail de psychologue avec lui. » Mais c'est génial, cette complémentarité, elle est fabuleuse.
Ouais, c'est donc magique.
Et j'ai même connu une histoire très touchante d'un enfant qui était condamné, qui avait pu réaliser son rêve, et c'était à Disneyland, et donc il revient pour faire à nouveau une ponction lombaire, parce qu'il voulait être vraiment sûr à quel niveau il en était, l'enfant. Et donc, la maman savait qu'il y avait peu d'espoir. Et l'enfant de 8 ans dit à sa maman, avant d'aller à l'hôpital, « Attends, maman, je prends toutes les photos de mon rêve, parce qu'il faut que je le raconte au médecin. » Et il était allongé quand même, avant de faire sa ponction lombaire sur le côté, et il mettait toutes ses petites photos, donc devant lui, et qui commentait au médecin. Le médecin, moi, m'a dit après, j'avais les larmes aux yeux, parce qu'il était dans la vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'espère, oui, qu'on aura le temps de parler des enfants, du comportement des parents, des équipes soignantes, parce que c'est des chapitres qui sont tellement enrichissants. Je suis tellement admirative. Moi, tu sais, quand on me dit, je vous admire, non, remettons les choses en ordre. Moi, ça fait partie de ma vie. Parce qu'il faut savoir que moi, le fait de pouvoir aider ces enfants-là, ma vie, elle est comblée. Donc, j'ai suivi un cheminement qui m'est apparu. En tout cas, c'est quand même bien de réaliser les rêves d'enfants malades quand on reste dans l'enfance.
Ouais, c'est un beau lien avec ta vie d'avant, en fait.
Un lien. C'est un lien sans que ça soit le lien, parce que, c'est en créant Petit Prince. Alors, ça va te surprendre, mais c'est en créant Petit Prince et en faisant un travail avec un psy, d'accord, au bout de 2 ans, que le psychologue m'a fait comprendre, mais si j'ai créé Petit Prince, j'avais mis de côté ce que j'avais vécu, et que le fait que l'article me séduise, c'était pas à moi que je pensais puisque c'était enfoui, ça a fait écho. C'est ce qui a déclenché la suite après, donc c'est ça qui est magique.
Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est que la vie parfois te met sur ton chemin et puis il y a un élément après extérieur ou intérieur qui te fait prendre conscience en fait que finalement c'est cohérent et que c'est logique tout ça, mais c'était tellement enfoui que au moment à cet instant T, on s'en rend pas compte.
Et puis, ce qui est phénoménal aussi pour moi, c'est que cet article, il est arrivé au bon moment, j'avais 30 ans. Je l'aurais lu à 23 ans, j'aurais dit c'est fabuleux, c'est génial, mais j'aurais peut-être pas basculé pour me dire allez hop, on y va.
C'est clair. Comment tu écoutes ton intuition ?
Comment j'écoute mon intuition ?
Ouais.
Ah mais moi je suis mon hypersensibilité et je suis quelqu'un instinctive. Donc, c'est-à-dire que quand je suis joyeuse, je peux être très joyeuse. Quand je suis malheureuse, je peux être très malheureuse. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, je marche beaucoup à l'intuition où, tu sais, ça me donne envie de te raconter qu'un jour, un journaliste me dit, ça faisait 30 ans qu'existait Petit Prince, est-ce que vous vous rappelez du premier rêve? Et je lui réponds instinctivement du tac au tac, mais chaque maman se rappelle du premier enfant qu'il a eu. Donc moi, mon premier rêve, c'est mon enfant, c'est voilà. Donc je marche beaucoup à l'instinct. Je prends des décisions aussi en collectif. Pour moi, mes 10 ans de club de vacances ont été fabuleux au niveau de la vie en collectif. J'ai besoin d'une meute à mes côtés. Pas derrière moi, je dis toujours, mes équipes sont à mes côtés. La nuance est très importante entre dire j'ai une équipe derrière moi et j'ai une équipe à mes côtés. Donc, s'il y a un choix, bien évidemment, il m'est arrivé dans ma vie de prendre seule des choix. Eh ben, je suis contente parce que mon intuition m'a permis de faire les bons choix. Alors, pourquoi j'ai fait le bon choix? Parce que la seule question que je me pose, si j'ai une décision majeure à prendre toute seule sans les autres, je vais entendre les autres, mais c'est moi qui trancherai. Je me revois en train de regarder la photo de ses enfants le 14 novembre 1987 en me disant, mais tu vas faire un choix, c'est pour eux. Poum! Et ça me guide énormément. Mais je suis quelqu'un d'intuitif. Je suis quelqu'un qui peut faire du rétro-pédalage parce que si on me dit, ah non, peut-être si on fait ça, il va y avoir ça, ah bah t'as raison. Ah bah t'as raison, tu vois, j'avais pas pensé à ça. Comme j'adore la pédagogie, bah ce n'est pas que dans un sens. Moi, je transmets ma passion, je transmets tout ce qu'on m'a appris, mais j'attends aussi de mes équipes bénévoles et salariés que je considère au même niveau, qui m'emmènent, qui me portent, qui m'emportent. Parce que c'est lourd, 35 ans de Petit Prince. Donc, je travaille, je dirais, en famille avec eux.
Ouais, ouais, vous partagez une vraie... C'est un vrai partage.
Une aventure. Tu sais que j'ai le petit pins, faudrait que tu passes, mais j'ai un petit pins du Petit Prince. Donc maintenant, je décore les gens. Tu fais partie de la famille Petit Prince. Mais c'est touchant parce qu'ils regardent ça comme s'ils avaient, ils avaient 5 ans, 10 ans, il n'y a plus d'âge. Tu vois ce que je veux dire?
C'est fou la fascination autour du Petit Prince. C'est un des livres les plus vendus au monde. Il y a vraiment quelque chose de... Un peu de transcendant dans ce petit personnage.
Bah déjà, c'est le deuxième livre lu après la Bible, le plus lu. Ensuite, moi je te cache pas, quand j'étais petite, j'ai rien compris au Petit Prince. J'ai rien compris. Et c'est quelque chose, après j'ai compris, qui ne se lit pas rapidement. C'est-à-dire, il se réfléchit, et chacun, toutes les personnes avec qui j'ai échangé, y en a, c'est leur livre de chevet ou ça rappelle quelque chose à tous les enfants, tous les adultes quelque part. Donc après tu l'interprètes d'une façon poétique à ta façon. Pour moi, la planète du Petit Prince, c'est ma vie. Elle est à part de toi, des autres. Donc chacun peut l'interpréter. C'est ça qui est super. Puis les aquarelles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, les aquarelles.
Et aujourd'hui, ça a explosé. Vous êtes 100 à vous engager au quotidien. Et dans les événements de ta vie et de reconnaissance, il y a eu notamment le fait qu'on te remette la Légion d'honneur. Comment ça s'est passé pour toi?
Alors, je l'ai refusé la première fois. Et
pourquoi?
Parce que j'estimais que je ne la méritais pas. Parce que j'ai eu mon grand-oncle qui a fait le chemin des dames, qui était le héros de la famille, qui a été blessé, il a eu la croix de guerre, enfin, c'était le héros de la famille qui s'en est sorti. Il était tellement gentil, je revois justement à Beaumont, en plus, ça c'est fou. Donc, chez ce grand-oncle, c'était cette armoire en bois, avec la porte qui grinçait, où il y avait très discrètement dans un coin, ses médailles qu'il avait eues. Et donc, je sais, j'étais fascinée quand j'étais petite de voir ces décorations, mais ils ne parlaient pas de la Première Guerre mondiale. Ils n'en parlaient pas. Et mon père m'a raconté après son histoire et tout ce qu'il avait vécu. Enfin bon, donc pour moi, la Légion d'honneur, c'est du hors norme. Donc moi, j'avais pas été blessée. Donc pour moi, je ne la méritais pas. Et j'ai été relancée un an après. Et c'est mes frères qui m'ont disputée en me disant, tu dois le faire pour papa et maman qui ne sont plus là, pour mes parents. Parce que vis-à-vis de la famille, c'est la suite de notre grand-oncle. Donc, je l'ai accepté à la seule condition que moi, je pouvais témoigner et remercier les familles et les enfants, puisque pour moi, c'était eux qui la méritaient. Donc, moi, je m'effaçais et pour moi, c'était à eux que je la dédiais. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de prendre la parole.
Ouais. Alors, et est-ce que ça a eu un impact, du coup, par rapport à l'association? Ça a donné une visibilité ou... C'était quand, du coup, cette remise de Légion d'honneur?
Je crois que c'était je me rappelle plus du tout.
Attends,
ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans, d'accord.
Ça fait 10 ans. Donc, moi, personnellement, j'ai tellement pensé à toutes ces personnes, je te dis, de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, parce que je suis tellement admirative que pour moi le combat que mènent les parents, je m'incline, je ne suis rien du tout à côté d'eux. Donc je l'ai accepté pour pouvoir me dire voilà. Donc merci aux familles, merci aux équipes soignantes aussi. Et je voudrais revenir sur quelque chose au niveau du pôle hôpital. Donc je t'ai raconté qu'on était en lien avec 150 services pédiatriques, mais aussi on sillonne la France, hein, on divise la France en deux grâce à nos deux chargés des relations avec les hôpitaux, qui y vont en moyenne, soit alors par visio ou qui se déplacent pour raconter les histoires des rêves des enfants qui se sont réalisés. Deux, on finance aussi des projets dans les hôpitaux pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants. Ça peut être une conteuse, hein, un projet ou des fresques sur les murs de l'hôpital dans le service pédiatrique pour que ça soit plus gai. Surtout, notre médecin et les médecins bénévoles, ils sont 4 en tout, quand il y a à remettre un rêve en place, il faut que à nouveau, on repart à zéro. Où il en est, comment il se porte, est-ce qu'il a des traitements, il y a un travail énorme de complicité avec les équipes soignantes et nos 150 services avec qui nous sommes en relation. Voilà.
Ouais, parce que vous avez vraiment besoin de vous adapter, en effet, pour réaliser les rêves, savoir quels sont ce à quoi il faut faire attention pour les enfants.
Oui. Par contre, tu me parlais de la Légion d'honneur, mais ouais. Pour moi, la reconnaissance de Petit Prince, c'est il y a 6 ans, on m'a contacté pour que le prix Galien. Alors, c'est quelque chose qui est connu dans le milieu médical, le prix Galien. C'est les prix Nobel du médicament, de la médecine et tout. Pas connu au niveau du grand public, mais dans le monde médical qui est connu. Ce sont deux pharmaciens en 1967 qui se sont dit « mais il faut un prix pour la reconnaissance de ce qui se fait au niveau des médicaments ». Puis par la suite, ça a été au niveau technicité, au-delà des traitements d'appareils médicaux. Et donc, le prix Galien, valorise au niveau du e-santé, de la recherche médicale, etc., etc. Donc, on m'a contacté pour me dire, le prix Galien va ouvrir une nouvelle catégorie, l'accompagnement du patient. Nous aimerions que vous soyez présidente. Et j'ai été touchée parce que je me suis dit, il y a 6 ans, donc ça fait 2000, je sais plus là exactement. Donc je me suis dit, là je suis touchée parce que c'est la reconnaissance de tout le travail que l'on fait, que l'on reconnaît dans l'accompagnement du patient. C'est-à-dire on choisit l'association Petit Prince qui a du recul par rapport à ça, de qu'est-ce qu'on peut proposer en tout cas ou réaliser pour les enfants gravement malades pour les accompagner dans leur parcours de soins. Et ça, pour moi, comme j'ai dit en interne, j'ai dit, mais c'est génial, c'est comme si l'association Petit Prince était étudiant en médecine, a fini donc sa spécialité, et il est reconnu, il peut œuvrer. J'ai comparé ça à des études de médecine. Et donc, je suis très, très heureuse pour mes équipes, pour les hôpitaux qui nous font confiance depuis des années. C'est une reconnaissance magique.
Ouais. Et justement, dans la confiance, il y avait évidemment la confiance des équipes médicales, mais aussi j'imagine qu'il y avait la confiance de certains parents qui pouvaient au début se dire « je vais vous confier mon enfant », mais…
Alors, il y avait la crainte. Alors ça m'a… Au début, je crois qu'on s'est battu, entre guillemets, pendant 10 ans pour expliquer qu'on ne réalisait pas le rêve d'enfant condamné. C'est-à-dire que tu avais des parents qui ne voulaient pas nous confier leur enfant parce que ils pensaient que leur enfant allait mourir et qu'ils ne le savaient pas. Enfin, tu vois l'image et la communication. Donc maintenant, tout le monde sait que Petit Prince accompagne l'enfant dans la durée. Mais comme quoi, c'était pas gagné au début. C'était pas gagné auprès des parents, de la confiance, de nous confier leurs enfants dans leur passion. Ou au début, j'ai eu aussi « Non, il réalisera son rêve quand il sera guéri. En gros, ça sera sa récompense. » Et j'avais beau expliquer, mais non, ça fait partie d'un parcours de soins. Alors, je demandais aux équipes soignantes de m'épauler à ce niveau-là. Et après, quand ça s'est mis en place, les équipes soignantes, elles jugeaient auprès des parents s'il valait mieux faire avant une hospitalisation, pendant les traitements ou après, à la fin. Donc, en fonction des familles, prendre soin de l'état psychologique face à la maladie, parce que c'est toute la cellule familiale qui traverse ce séisme. Donc, les médecins influençaient les parents pour que ça soit toujours, toujours le plus bénéfique pour l'enfant qui est touché, qui est concerné.
Vous avez accompagné combien d'enfants depuis le début?
Oh là, alors écoute, je crois que c'est plus de 1000, ça j'en suis convaincue. Plus de 1000, oui. C'est tous ces enfants-là, ils font partie de l'histoire de l'association Petit Prince.
Ouais, c'est magique.
Non, ce qui est magique, t'imagines par contre le nombre de sourires, de rires, c'est ça qui est génial pour les parents, les enfants, les partenaires. Alors là, c'est génial de se dire, c'est des milliers, des millions.
Déjà, entendre un enfant rire de plein cœur quand un enfant est en bonne santé, c'est déjà un moment magique, mais alors encore plus quand c'est des enfants malades.
Tu sais, justement, j'ai une petite histoire qui est extraordinaire. J'ai toujours en tête, quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. J'étais justement à l'hôpital Robert Debré où j'étais toujours préparée à rentrer dans une chambre sur la cellule familiale, voilà la maladie qu'a l'enfant, donc toujours pour me préparer, me préserver, et puis préserver la famille que j'allais rencontrer. Ce jour-là, il n'y avait pas l'assistance sociale. Quand je suis allée à l'hôpital, il y a une infirmière qui me dit « Écoute, il n'est pas là, Marc. Par contre, Demi, est-ce que tu peux aller dans la chambre 18 ? On a accueilli hier soir un petit garçon. Je pense que ça lui fera du bien que tu lui parles de l'asso. » Donc, je vais à la chambre 18, je frappe, j'ouvre, je referme. Et je vois… J'avais les larmes aux yeux. Je me revois tourner la tête à droite en disant « faut que j'y aille ». Je rentre et je rentre. Donc, pourquoi j'avais fermé la porte? Il y avait un petit bonhomme d'une 8 ans qui avait un halo métallique autour du cerveau avec des vis qui rentraient au niveau des tempes. Donc, il avait un problème au niveau des cervicales. Et dans le fauteuil, il y avait une maman qui avait à peu près le même âge que moi. Et donc, je vois cet enfant, qui ne me sourit absolument pas. Je me dis, oula, je vais pas rester longtemps. Je dis, écoute, voilà, excuse-moi de te déranger, je viens te voir parce que, on vient de me dire là dans le couloir que t'aimes bien la musique. Et sa maman gentiment, ah, c'est vous, Petit Prince, on m'a dit que vous alliez passer hier soir. Bon. Donc, Eric, il s'appelait Eric. Il répond pas. Je dis « Mais t'as un rêve, qu'est-ce que tu voudrais ?» Et donc, il balbutie « J'aimerais bien enregistrer un CD, à l'époque, dans un studio, parce que je joue du piano, du classique, et je voudrais offrir ce CD à ma famille et aux gens qui sont à mes côtés. » Il sourit toujours pas. La maman me dit « Oui, ça, c'est vraiment son rêve. » Alors, je sais pas si t'imagines, c'était en 91, avoir un studio d'enregistrement pour un CD. Autant aujourd'hui, c'est facile, mais à l'époque, c'était… Bon, je lui dis, écoute, je reviendrai, Eric. Je te promets, on va essayer de faire tout notre possible. À bientôt, je repasse samedi, je lui dis. Et un sourire de l'enfant. Je m'en vais complètement, mais chamboulée dans le… couloir en me disant, mais qu'est-ce que je viens de voir? C'était la première fois que je voyais un enfant avec un halo métallique comme ça, qui Robocop, quoi. En fait, tu te dis, mais c'est pas possible. Et je vais pour partir et j'entends demi, demi. La maman court après moi, me retourne. Et elle me dit, mais merci. Alors, ils habitaient Toulouse. Elle me dit, mais merci, merci, merci. Ça faisait 3 mois que je n'avais pas vu mon fils sourire. Je la prends dans mes bras, je lui dis, je reviens samedi, tu seras là. Elle me dit, non, je retourne à Toulouse chercher des vêtements et puis il faut que je voie mes autres enfants. Je prends l'ascenseur, la larme à l'œil, évidemment, en me disant, mais je sais pas si je vais avoir l'énergie de continuer. Je ne sais pas si je vais avoir l'énergie, c'est pas possible. Et puis j'avais ce sentiment d'avoir volé à la maman un sourire qu'elle n'avait pas depuis 3 mois. Tu imagines une maman qui te dit, mais oh merci, parce que ça faisait 3 mois que j'avais pas vu mon fils sourire. En fait, t'as l'impression d'usurper quelque chose. Et donc le soir, je me dis, mais quel courage. Et je me dis, je sais pas si je vais continuer. Et donc, impossible de dormir, j'avais l'image de cet enfant. Et heureusement, j'ai eu une lueur de pédagogue en me disant, mais attends. Arrête de voir un enfant malade qui rêve. Vois plutôt comme en club un enfant qui rêve, qui est malade. Et simplement en inversant les deux noms, j'avais une approche qui a chamboulé, le contexte. Et j'étais plus dans la jovialité, dans la complicité que la maladie, quoi. La maladie. Avec l'horreur que ça peut impliquer dans les effets secondaires ou le handicap, quoi.
Ouais. Et est-ce que vous avez pu réaliser son rêve?
Alors, grande leçon. Il est décédé avant, mais j'ai appris une grande leçon, c'est que la maladie a été beaucoup plus vite que ce que pensaient les médecins. Et donc, j'étais pareil dans une culpabilité en train de me dire, mais c'est moi, j'ai pas été assez vite et tout. Et tu te rends compte que c'est la maman qui m'a dit demi. Merci de l'avoir fait rêver, parce qu'il a rêvé jusqu'au bout. Il a eu confiance dans l'association que vous alliez le faire. C'était une question de temps. Et sache qu'il est décédé avec l'image qu'il enregistrait son CD pour nous tous. Et elle me dit ça pour me consoler. Donc, des histoires comme ça, j'en ai des centaines dans mon cœur, et c'est pour ça que je te le raconte avec émotion, parce que c'est vivant, c'est comme si c'était hier, la maman qui te console, enfin c'est ahurissant, enfin tu vois, t'inverses les rôles, donc j'ai pleuré après parce que je me suis autorisée à pleurer, parce que tu restes pas insensible à ce courage, à cette dignité, donc des leçons, elles sont inscrites, poum poum.
Ouais, c'est... De chaque histoire, t'en retires grandi et...
Ah, et tu, alors là, tu descends, tu vois, si t'as, là, enfin moi, j'ai jamais eu aucune prétention parce que mon parcours de vie, hein, il s'est fait grâce aux autres. Quand tu pars de ça, t'as tout compris, hein.
Comment tu célèbres les réussites?
Alors déjà, pour nous, ce qui compte, c'est que chaque rêve, donc t'imagines, hein, on en a réalisé 8000 dans différents domaines, hein, les animaux, l'astronomie, le ski, l'aviation, enfin tout ce qui peut exister. Il faut savoir, et je m'adresse aux auditeurs également, que le rêve d'un enfant gravement malade est exactement le même qu'un enfant qui est en bonne santé. Mais ça devient un rêve chez l'enfant, parce qu'avec ses hospitalisations, ses traitements ou ses amputations, ça devient un rêve. Est-ce que je vais pouvoir le réaliser un jour? Et c'est là où ça prend une dimension extraordinaire. Les enfants, en plus, avec ce qu'ils supportent, ils vont pas se mettre en danger, ils vont pas nous annoncer n'importe quoi, ils savent ce qu'on peut faire. Donc à partir du là... Pour nous, ce qui est important, c'est que chaque rêve soit archi-professionnalisé. On n'a pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Nos bénévoles ont des formations en interne. Donc des formations pratiquement pendant un mois et demi, 2 mois. Donc le bénévole, le recrutement, par exemple, 34 ans après, je fais partie du recrutement des bénévoles rêves. Je veux voir la personne en face de moi avec évidemment donc des tutrices, des personnes qui sont là depuis un certain temps et la directrice de l'équipe Rêve. Je veux voir moi la personne en tant que cofondatrice à qui je vais confier des enfants. Donc on a beaucoup d'élus, on n'a pas forcément toutes les candidates parce qu'il y a des critères d'acceptation. Parce que ces personnes-là, elles vont être seules sur le rêve après. Donc, elles ont un rôle d'animation, un rôle d'organisation, un rôle d'ambassadeur, puisque quand ils partent sur un rêve, ça peut être toute la famille.
Et du coup, comment vous célébrez alors ?
On célèbre les rêves quand déjà il est réussi. Parce que malheureusement, il arrive aussi que des enfants sur un rêve. Les médecins n'est pas prévu que le lendemain il va avoir 42 fièvres. Donc on a tout un protocole de sécurité qui fait que, je touche du bois, on n'a jamais eu un drame sur un rêve, puisqu'on anticipe un rêve à nouveau à mettre en place en fonction de son évolution, des traitements, hospitalisation, etc., etc. Donc un rêve est célébré quand chaque semaine il y a les réunions rêves et que le bénévole raconte le rêve de la façon dont ça s'est passé, avec les précautions qui ont été prises, et puis la réussite. Et les photos, elles traduisent, hein. Ouh là là, les photos, elles traduisent le bonheur d'une famille, hein. Et puis, ce qui est fabuleux, faut pas oublier que quand la maladie tombe dans la cellule familiale, c'est déjà toute la famille qui souffre. Et là, l'enfant malade devient celui qui permet de vivre des instants précieux en famille et de le partager. Il n'est plus celui qui cause des soucis dans la cellule familiale, maman qui perd son emploi parce qu'il faut être au chevet de l'enfant, ou non, cet été on part pas en vacances pour la fratrie, votre frère va être encore à l'hôpital. Donc il est déjà dans une culpabilité de générer entre guillemets des soucis dans la cellule familiale, même si on ne lui dit pas. Il le ressent, c'est une éponge. Donc là, il est le roi, il n'est plus le petit prince, c'est le roi qui permet à sa famille de partager des instants précieux. C'est-à-dire, hop, on met la maladie de côté grâce à lui et on va vivre des instants qu'on pourrait pas s'offrir.
Ouais, parce que vous leur faites vivre des choses qui sont exceptionnelles.
Alors exceptionnelles de par la qualité de ce que nous proposent les partenaires. C'est ça. Donc, un enfant malade qui a la possibilité d'accompagner un soigneur toute une matinée, voire toute une journée pour comprendre pourquoi les tigres, ils se couchent à telle heure. Enfin, donc les enfants, en plus, quand ils ont une passion, je peux vous dire que nous, quand on les accompagne, on a intérêt à travailler le sujet, hein. Donc, ils vont poser des questions à un professionnel. C'est extraordinaire parce que toute la famille la met la maladie de côté. Et donc, c'est lui, l'enfant malade, qui est fédérateur de super moments dont ils parleront après. Et puis, s'il va pas bien, il y a les photos qui sont là à nouveau.
Ouais. À quel moment dans ta vie, tu t'es dit « pourquoi pas moi ?»
Pourquoi pas moi ? Ah, je me suis jamais posé, moi, pourquoi pas moi, puisque j'ai avancé à 7 ans. Moi, j'ai pourquoi pas moi ? Non, je me le suis jamais posé, mais… J'espère que tu comprends bien, les auditeurs aussi, que dans tout ce que je dis, j'ai aucune prétention, hein, puisque je suis devenue ce que je suis devenue, bon, grâce à ce que j'ai vécu et les gens qui ont cru en moi et qui ont cru dans le projet. Donc, pourquoi pas moi ? Non, je me le suis pas posé, puisque j'ai dit, mais je vais le faire. Tu comprends ? Dans quel temps ? Mais je vais le faire. Que mes parents m'encouragent ou pas, c'est pas grave, j'avance. Moi, j'avance. Et là, aujourd'hui, j'ai des équipes extraordinaires. J'ai des bénévoles et des salariés, mais j'ai la chance de superviser des équipes archi-professionnelles. Parce que chacun est à sa place, chacun a envie de donner le maximum pour les enfants et les ados. Moi, je suis plus cofondatrice que directrice générale. Quand tu as des gens compétents, bénévoles, salariés, bien sûr qu'ils échangent avec moi. Tiens, on a pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses ? Je parle surtout des salariés qui ont chacun un directeur de service et tout. Quand il y a des décisions, comme je disais tout à l'heure, à prendre, j'échange avec mes directeurs. Mais comme ils sont compétents, donc moi c'est facile pour moi, je peux rester dans mon monde de l'enfance, toujours. Ça je l'entretiens par contre, alors ça je l'entretiens.
Comment tu l'entretiens ?
Je l'entretiens en changeant pas, je reste la même. Tu demandes à Mélanie, hein, et si Mélanie écoute, je l'embrasse très très fort, parce que c'est une personne que j'aime énormément dans son côté entier. Et ce qui est fabuleux quand tu es pédagogue, c'est de superviser des personnalités différentes. Tu viens à l'association, tu es incapable de deviner qui est salarié, qui est bénévole. C'est une troupe, une équipe, une meute. Bon, donc Mélanie, 9 ans que je la connais, demande-lui, j'ai pas changé, je resterai la même. Pourquoi changer? On s'occupe d'enfants qui ont un courage qu'on n'a pas, de parents qui ont une dignité qu'on n'a certainement pas. Donc, on ne peut être qu'admiratif. Et puis, alors moi, j'interdis qu'on perde du temps avec des bricoles, alors qu'on est là pour une cause qui nous affecte. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même entre 500 et 600 rêves à mettre en place à cause du Covid. Hein.
Ouais, parce que du coup, il y a un énorme décalage.
Ouais, il y a eu un décalage. Quand on pense que les enfants, pendant le Covid, ont eu cette faculté, quand on leur demandait comment ils allaient, ils disaient, oh, nous, on a l'habitude d'être confinés. Bonsoir, la leçon. Pendant mars 2020, là, quand il y a eu cette avalanche de cauchemars, hein, dans le monde entier, les enfants, ils étaient dans leur chambre. Ils n'avaient pas le droit de sortir dans les couloirs pour éviter d'attraper, en plus de ce qu'ils ont, le Covid. Enfin, double peine, les enfants. Malades, et on pouvait pas réaliser leurs rêves. Donc, quand on pouvait financer une conteuse, parce que les projets hôpitaux aussi, ils étaient en stand-by, puisque personne n'avait le droit de venir dans les hôpitaux et tout. Les parents aussi, hein, des enfants qui sont décédés ou il y avait papa et maman qui pouvaient aller à l'enterrement. Enfin, c'est cauchemardesque. Là, en ce moment, il y a des enfants qui décèdent. C'est un cauchemar, parce que à la perte de leur enfant, c'est pendant la période de Noël. Eh ben, je peux vous dire que ça rajoute de la douleur aux parents, hein. Donc, les parents, on peut en parler. Dis donc, ça fait déjà 1h30, qu'est-ce que ça passe? Donc, et puis, merci aux auditeurs qui écouteront, hein. Donc, vraiment, on peut en parler des heures parce que il y a tellement de sujets extraordinaires en leçons que ma vie, elle est riche, hein.
C'est quoi pour toi la réussite?
D'avoir réussi sa vie.
Et c'est quoi pour toi avoir réussi sa vie?
Bah, d'avoir réalisé ses rêves, c'est une évidence. C'est une évidence. Moi, je connais des personnes handicapées, hein, qui font du para, qui vont être aux Jeux Olympiques, hein. Donc, qui subliment en faisant des choses qu'ils n'auraient pas pensé faire ou qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas été handicapés. Il y a une phrase d'un handicapé, malheureusement, je me souviens pas de son nom, qui dit une phrase extraordinaire. Rien ne sert de briller si on n'éclaire personne. Quelle leçon! Médaille d'or, je crois, en athlétisme, mais la phrase, elle est merveilleuse. Donc, réussir sa vie, c'est aller au bout de ses rêves.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Dominique de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
T'avais raison. T'avais raison d'y croire.
On dit que quand dans la vie on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi tes renoncements?
Bah, une vie de famille. Mais alors, ça va te faire sourire, mais le côté maternel, je l'ai eu, enfin, pour moi, personnel, à 60 ans, pas avant. Avoir un enfant à 20 ans, 30 ans, c'est comme si j'étais une enfant. Tu vois, j'ai une maturité qui est tardive, je l'assume complètement, mais j'ai tellement sublimé ma vie avec les petits princes que j'ai jamais été malheureuse. Et puis j'ai des amis, j'ai ma meilleure amie qui a des triplés, donc j'ai été marraine d'un seul coup à 40 ans, donc deux triplés. Donc ma vie ne m'a pas permis de fonder une famille, mais je ne suis absolument pas aigrie, puisque toutes les compensations qui m'équilibrent, elles sont à côté, en gardant bien mon rôle, hein, de marraine et non pas de maman de substitution. Je ne l'ai absolument pas. Et avec mon tempérament, je pense que si j'avais créé Petit Prince en ayant une cellule familiale, j'aurais pas pu faire les deux. Et ça n'aurait pas été au détriment de ma propre famille. Enfin, c'est impensable. Et comme je travaillais du lundi au dimanche soir, mais sans prétention, puisque je suis une passionnée, moi, j'ai toujours été comblée. J'ai été comblée. Tu comprends? Donc moi, en étant comblée, je regrette rien. C'est des choix de vie. Et comme j'aurais rêvé de rencontrer un astronaute ou je sais pas moi Indiana Jones, il aurait fallu que le mari il soit complètement enflammé pour qu'on puisse faire quelque chose en cellule familiale. Je ne l'ai pas rencontré. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que je suis profondément heureuse et mes choix de vie me correspondent.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans toute ta vie ?
C'est quand je te disais tout à l'heure, où pendant 2-3 ans, je me suis posé la question, est-ce que je continue Petit Prince ? Parce que prendre le métro, moi je prenais des tire-fesses ou des œufs, hein, la nature qui était à côté de moi. Donc ça a été de poursuivre l'aventure à cause de cette vie à Paris que je détestais. C'est même pas le manque d'argent, c'est pas ça qui m'a. C'était, mais je faisais un grand écart entre ma vie partagée, je te dis, en Grèce, au bord de l'eau, la montagne où je te dis, je ne faisais que rêver et je construis quelque chose à Paris où je dois prendre le métro, le bus, cette agitation qui existait déjà. C'est ça qui a été le plus dur dans ma vie.
Et ça, t'aurais pas pu justement, enfin, monter Petit Prince, mais en dehors de Paris ?
Non. Pour la raison, je l'ai cofondé avec ma belle-sœur, infirmière, qui était dans le 15e arrondissement, hein, d'une part. Et puis, on s'est aperçu très, 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 très vite, quoi qu'il arrive, sans se poser la question, que les partenaires qu'on avait, ils sont à Paris. Hein. Au niveau des médias, c'est Paris. Enfin, toutes les grandes institutions, quelque part, qui pouvaient aussi nous épauler, c'est Paris. Hein. Alors que j'adore la province. Si j'avais pu, oh là là, ça, c'est sûr que je serais retournée à Clermont-Ferrand, mais... On n'aurait pas réussi aussi vite, je pense, alors que j'adore Clermont-Ferrand, j'adore Beaumont, c'est dans mon cœur, hein, tout ça, c'est dans mon cœur.
Et aujourd'hui, du coup, ta belle-sœur, donc vous avez cofondé l'association ensemble et vous travaillez toujours ensemble ?
Non, elle est partie vers d'autres aventures, elle est partie sur des aventures qui étaient plus personnelles en ce qui la concerne, mais elle a été quand même 13 ans à nos côtés, à mes côtés, et c'est un super démarrage parce que je n'aurais peut-être pas, je le pense, créé l'association sans elle, donc c'était un bon binôme avec nos différentes personnalités.
Ouais. Est-ce que tu as eu des peurs en lançant l'association ?
Aucune. Non, mais aucune. Quelque chose qui va t'étonner, jamais, c'est ce que je disais, j'ai imaginé une seule fois qu'on manquerait d'argent. Mais parce que c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Qui peut aujourd'hui, même aujourd'hui, je vois quelqu'un dans la rue. Je lui dis, voilà, maintenant il connaît Petit Prince. Je lui dis, est-ce que vous avez un euro pour m'acheter un ticket de métro ou je sais pas quoi. Mais s'il m'envoie promener, c'est que c'est quelqu'un quand même qui est aigri. Sinon, il va me le donner instinctivement si je lui monte la plaquette. Moi, j'ai reçu des dons extraordinaires. À l'époque, on était dans les francs. Moi, je me rappelle un jour, j'ouvrais le courrier, donc d'une enveloppe que j'ouvre avec un timbre le moins cher possible, où il y avait un ticket de métro avec un petit morceau de papier. Et le monsieur me met, écoutez, voilà mon numéro de téléphone. Je ne peux vous offrir qu'un ticket de métro parce que je suis au chômage. Je peux pas faire plus. Ah, mais j'ai pris mon téléphone et je lui dis, mais vous avez pas compris, grâce à votre ticket de métro, moi, je vais aller voir un partenaire. Et c'est ça qui va permettre à l'association de grandir. Idem avec quelqu'un qui avait envoyé un chèque de 5 francs à l'époque. Je suis désolée, je peux pas vous donner plus. Hop, je prends mon téléphone parce que c'est toutes ces petite pierre à l'édifice qui me permettent de te parler aujourd'hui.
Ouais. Ah, c'est clair. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui ?
J'aime pas le mot fierté parce que pour moi, ça peut avoir une connotation prétentieuse. Non, je suis tellement heureuse d'avoir des équipes comme j'aurais rêvé que ça, c'est pas forcément facile d'avoir ton équipe salariée.
Ah, c'est sûr.
Et ça, je suis super heureuse de l'équipe dont je rêvais, c'est-à-dire ambiance club où ça travaille, mais qu'est-ce que ça rigole aussi. Il y a des bénévoles, ils partent ensemble en vacances, c'est génial. Donc, ça veut dire que malgré les décès des enfants, hein, c'est des étapes à traverser. Donc, si on a le temps, je pourrais te dire comment on traverse ces épreuves. Donc, voilà, donc le mot fierté, c'est marrant parce que… Enfin, c'est marrant. Très, très souvent… Tous ceux qui m'interviewent me disent « Qu'est-ce que tu dois être fier ? t'as ma parole d'honneur, mais t'as ma parole d'honneur que je n'ai aucune fierté dans ce que j'ai créé, parce que toutes les leçons que j'ai reçues, c'est pas dans ma nature d'être fière. C'est pas dans ma nature. C'est pas de la fausse modestie, parce que, bon, t'as vu, je suis spontanée, hein, donc je réfléchis pas des fois à ce que je dis. Non, non, je remercie, moi, la vie d'avoir pu la sublimer et puis de faire quand même quelque chose de passionnant. Je n'aurais jamais pu... Non, je me vois pas faire quelque chose qui me passionne pas. Moi, je tombe malade.
Donc, ça t'est déjà arrivé d'être dans un moment dans ta vie où tu faisais des choses qui te passionnaient pas et du coup de sentir que ton corps commençait à te parler?
Ah, mais jamais. Puisque je te dis, à 7 ans, hop, je trace ma route. À 22 ans, alors 18 ans, qu'est-ce que j'étais heureuse quand je faisais mes colonies de vacances pour enseigner le ski et j'étais payée. Donc, mais j'étais heureuse. Super heureuse.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui?
Oui, alors déjà, je remercierais, s'il y a des parents qui m'écoutent, merci, merci du fond du cœur de toutes les confidences qu'ils ont pu me faire, mais des vraies confidences familiales, jamais je les remercierai assez. Les parents, les enfants, les ados qui me confiaient certaines choses, les équipes soignantes pour qui j'ai un respect extraordinaire parce que ils y sont tous les jours pendant 12 heures et ils doivent faire face. Ils doivent mettre des fois de côté l'affectif. Le conseil que je pourrais donner, c'est déjà quand on peut, bien sûr, quand on peut, de réaliser ses rêves, de tout faire pour les réaliser, puisque moi j'ai vu des enfants avec des handicaps ou des lourdeurs de traitement y croire, s'accrocher à ça. C'est ça, moi, c'est votre vie. Si vous avez si vous vous plaisez pas quelque part, faut partir parce que c'est obligatoirement ça vous abîme. Vous pouvez pas être équilibré ou avoir un semblant d'équilibre si on est dans un environnement. Et je ne juge pas, hein, parce que c'est pas facile, hein, de quitter quelque chose où on peut pas se permettre parce que il y a des facteurs que je ne maîtrise pas mais oui, si on peut réaliser ses rêves, prendre des décisions, il faut le faire quand on peut.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Alors, mais dis donc, t'aurais pu me prévenir avant. Hein.
Ah, c'est la spontanéité, c'est ouais, ça qui est chouette. Ouais,
répète ta question comme ça.
Le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
C'est au début, c'est Dolto, Françoise Dolto. Je voulais absolument au début qu'elle rentre dans le conseil d'administration. Parce que je me suis dit, ma belle-sœur et moi, on n'est pas connus, donc qui va nous faire confiance? Et j'ai dit, oulala, si on a des noms qui sont costauds, ah, ça veut dire que ça va être crédible. Parce que je te signale, au début de Petit Prince, moi, j'avais des gens qui disaient à quoi ça sert le rêve. Faut le savoir. Donc, j'avais contacté donc le secrétariat de Françoise Dolto, qui malheureusement était gravement malade à l'époque, je ne le savais pas. Donc, son secrétariat nous a appelé en nous disant, écoutez, voilà, Françoise Dolto est gravement malade. Donc, elle ne pourra pas rentrer dans votre conseil d'administration. Mais par contre, elle vous encourage. Elle trouve l'idée super. Foncez, allez-y, parce que ça ne pourra apporter que du bien aux enfants. Donc, voilà. Et malheureusement, elle est décédée un an après. Alors, excuse-moi, j'ai une petite canne de tout. Hey. Voilà, je vais boire un peu d'eau. Donc voilà. Donc, ça te propulse, hein, quand les gens t'accompagnent, ça te propulse.
Ouais, et puis quand les gens croient en ton projet, enfin te confirment que ton projet.
Oui.
C'est quoi tes prochains défis?
Moi, mes prochains défis, c'est de garder la santé, hein. Moi, c'est important parce que on avance dans le temps et qu'il faut se protéger. Donc j'ai toujours su me protéger. Donc moi, mes prochains projets, c'est vraiment d'être à l'association auprès de mes équipes. C'est des défis parce que le temps passe, mais tu te sens bien avec eux et que t'es toujours autant passionné.
Et tu, tout à l'heure, avant d'entamer la dernière question, tu disais que vous arriviez du coup à vous protéger. Tu disais tout à l'heure avec les équipes, comment du coup tu les formes pour pouvoir arriver à à pouvoir accompagner au mieux les enfants et les familles. Je compatis parce que j'ai toussé pendant un mois et demi.
Attends.
Oui.
Alors, donc nos bénévoles, ils sont déjà, ils ont la possibilité donc de s'exprimer à l'association. Donc, quand il y a le décès d'un enfant, on est proche du bénévole. Parce qu'on sait tous ce que c'est qu'en tant que bénévole, la perte d'un enfant. C'est-à-dire qu'on se met pas du tout à la place des parents. Attention. Mais en tant qu'accompagnant ou ayant monté le rêve de A à Z, on sait tous ce que c'est. Sans se mettre, je le redis, à la place des parents. Donc, il va y avoir cette approche du groupe qui va épauler de toute façon le bénévole qui subit cette situation. Parce qu'il faut savoir que c'est pas chez eux que les bénévoles seront plus ou moins réconfortés parce que ça fait peur. Et puis les enfants ou l'époux ou l'épouse du bénévole, s'il apprend que son conjoint, sa conjointe a perdu un enfant qui est suivi depuis 3 ans, voire plus, c'est difficile de trouver aussi les mots. Donc il faut qu'on soit soudés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va suivre le bénévole pendant un certain temps, l'accompagner. Et le fait qu'il ait pu s'exprimer et partager ses inquiétudes, ses angoisses, c'est énorme déjà. Hein? Ça, c'est sûr que la parole, hein, quand il existe des groupes de parole, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire se délester quand même d'un chagrin, parce que ça serait anormal qu'un bénévole qui suit un enfant depuis plusieurs années n'ait pas du chagrin. Enfin, on leur demande pas d'être des robots. Donc, le fait de pouvoir le partager avec plusieurs personnes est quelque chose qui délivre. Il y en a qui préfèrent ne pas en parler. Donc, on respecte la personnalité du bénévole, de ce qu'il souhaite. Et troisièmement, il y a une psychologue pour les bénévoles, donc qui peut être appelée à n'importe quel moment si besoin. Donc l'encadrement est très professionnel.
Ouais. De quoi vous avez besoin aujourd'hui ?
Bah, écoute, c'est sûr que les donateurs sont toujours les bienvenus parce que face au nombre de rêves aussi qu'on a à monter, il est hors de question qu'on monte pas les rêves, hein, parce qu'il nous manque soit du relationnel ou soit des moyens financiers. Hein. Dès qu'on peut, on met des rêves en place. Hein, et tous les rêves ne sont pas gratuits. Donc, il est hors de question que l'argent soit un motif supplémentaire pour ne pas réaliser les rêves. Il en est hors de question. Il y a trop d'attentes, il y a trop d'enfants qui attendent de rêver.
Et est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles ?
Ah oui, 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 oui. Alors, de bénévoles en Île-de-France. Ça, c'est pour les simples raisons, c'est que les formations se passent donc à Paris, hein, on est dans le 14e arrondissement, qu'on a besoin d'avoir des équipes soudées qui se connaissent parce que la responsabilité d'accompagner une famille dans la durée nécessite qu'on ait des contacts privilégiés avec les bénévoles. Attention, pour mémoire, je ne l'ai pas dit, mais plus de 80% des rêves, hein, sont pour des enfants qui habitent la province. On fait pas de parisianisme. Par contre, on a beaucoup, plus de 80% d'enfants qui viennent de province.
D'accord. Et un petit détail, pour pouvoir être bénévole, il faut être disponible minimum 2 jours par semaine.
Tout à fait. Donc 2 jours par semaine, ben, c'est important parce que construire un rêve ne se fait pas en 5 minutes. Réaliser le rêve, ça peut durer un certain temps, hein, entre une journée et une semaine. Et puis il y a les réunions rêves où on raconte les rêves, il y a la préparation des rêves. Donc une journée serait trop courte.
Et si on a des familles qui nous écoutent ou qui connaissent des personnes qui souhaitent vous solliciter pour soumettre un rêve, ils vont sur votre site internet ?
Oui. Oui, qui voient les pathologies prises en charge. Et s'ils ont une inquiétude, on a toujours des médecins à l'association qui peuvent les guider.
Super. La dernière question, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Bah déjà à toi, c'est une évidence. Aux auditeurs, qui ont pris la peine de m'écouter longuement. Et dire merci à toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Sans eux, je ne serais pas en face de toi.
Merci beaucoup, Dominique.
Eh ben, écoute, je t'embrasse. J'espère
moi aussi
avoir l'occasion donc de te voir prochainement chez nous.
Une fois que nous avions coupé l'enregistrement, Dominique m'a demandé si c'était assez clair à la fin qu'elle remerciait ses équipes. Je pense qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, mais au cas où, je vous retransmets ses remerciements. Je profite de cette conclusion pour vous dire que, comme vous le savez, c'est la fin de l'année et donc l'occasion propice pour faire des dons à des associations qui seront déductibles de vos impôts. Comme le disait Dominique, près de 600 enfants attendent de réaliser leurs rêves. Alors, si vous avez envie de donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas. L'association est reconnue d'utilité publique, mais ne reçoit aucune subvention de l'État. Vous avez tous les détails sur le site petitprince.com. Et pour finir, si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça sera un peu mon cadeau de Noël à moi. Je vous souhaite une magnifique fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi, avec un homme qui a deux métiers.